Donc voilà, rebonjour. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je prêche deux dimanches d'affilée. Merci d'être encore là. La dernière fois, j'ai commencé par une blague. Alors vous n'étiez pas là, tant pis pour vous, je ne la referai pas. Là, je vais raconter juste une petite anecdote de ma vie pour introduire mon message. Savez-vous que j'ai failli devenir africain ? Donc ça tombe bien parce que finalement, peut-être ça me poursuit, je tombe dans une église dont le pasteur est béninois. Alors dans ma jeunesse, vous savez, quand on est jeune, on est un peu aventurier. Et je suis devenu chrétien à l'âge de 19 ans. Et puis vraiment, j'avais un feu dévorant dans mon cœur. Je voulais vraiment servir Dieu avec tout ce que j'étais. C'est toujours le cas. Et donc à l'époque, on m'a proposé de faire mon service militaire en tant que, alors je crois à l'époque ça s'appelait coopérant, et de partir au Mali, donc vraiment en Afrique, la vraie. Et donc j'ai commencé tout un tas de tests, de démarches pour partir avec une ONG pour voilà, servir au Mali. Et en fait, je suis tombé sur un os, donc du coup, je ne suis pas parti et donc je ne suis pas devenu africain. Tu vois, j'aurais pu avoir une autre vie. Et en fait, je ne suis pas parti parce que je suis tombé sur un os. Dans l'ensemble des démarches qu'il fallait faire, il y avait un moment où il fallait rencontrer un psy. Psychiatre. Et là, en fait, je suis tombé sur un os. Alors, en fait, ça s'est passé extrêmement simplement. Elle m'a posé une question, et une question en apparence ultra simple, et j'ai carrément bloqué sur la question, recalé. Et cette question, c'est « Qui êtes-vous ?» Et en fait, j'ai trouvé ça ultra agressif. Je me suis assis devant le bureau, c'était une dame, gentil sourire, tout ça, et comment elle commence à parler « Qui êtes-vous ?» Wow, j'ai pris ça en pleine face et je me suis trouvé bête parce que j'avais du mal à répondre. Et j'ai commencé à bafouiller, etc., etc. Je commençais à dire oui, je suis un étudiant, je fais des mathématiques, etc. Ah, vous vous définissez par ce que vous faites ? Et bam, 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 elle attaquait comme ça. Ça m'a déstabilisé. Puis finalement, je ne suis pas parti au Mali. Voilà. Alors tout ça pour introduire un nouveau thème, voilà, c'est un nouveau thème, donc on n'est plus dans la reconnaissance. Et ce nouveau thème en fait c'est, j'ai intitulé ça « Devenir un fils ». Et c'est vrai que nous sommes des fils et des filles de Dieu, et c'est important de connaître ça, de savoir qui nous sommes vraiment. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être un fils et une fille ? Alors, dans votre expérience, je ne sais pas tout ce qui vous êtes, je ne connais pas tout le monde. Peut-être que vous avez vécu quelque chose avec Dieu, vous êtes chrétien, vous le suivez peut-être depuis des années. Peut-être que ce n'est pas encore le cas, vous êtes là en cheminement, en questionnement. Peut-être tout simplement vous êtes venu, mais vous ne savez pas ce que vous faites là ce matin. Mais ce qui se passe... Quand on commence une vie chrétienne, il y a un truc qui se passe qui est très très fort. Au moins, il y a une affirmation de Dieu sur notre vie qui est extrêmement forte. Et cette affirmation de Dieu, c'est « Tu es mon fils, tu es ma fille, mon enfant. » Quand on approche de Dieu, quand on commence à faire tout ce cheminement de conversion, il y a une première affirmation sur notre vie qui est très puissante, c'est « Tu es pardonné ». Mais Dieu ne s'arrête pas là, et il va plus loin, et il dit « Tu es mon fils, tu es ma fille ». Alors on peut ressentir cette affirmation de Dieu, ou peut-être on ne ressent rien du tout, mais dans tous les cas, c'est une vérité fondamentale que la Bible affirme à plein plein d'endroits, que nous sommes enfants de Dieu. Donc par exemple, un verset comme 1 Jean 5:1, mais en gros ça dit « Celui qui croit en Jésus-Christ est né de Dieu ». C'est clair, simple, net. En 1 Jean 3, 1, on peut encore lire « Voyez, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Et c'est vrai que devenir chrétien, il y a plein de choses qui changent dans notre vie, dans notre cœur, etc. Et dans un sens, c'est un peu mystérieux ce qui se passe quand on devient chrétien. Tout ce changement, on le contrôle pas complètement, on l'analyse pas entièrement. Mais ce qui se passe, c'est un peu comme ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, où on parlait d'un cœur qui se met à battre. Et c'est exactement ça. Il y a une nouvelle naissance, nous dit la Bible. Il y a quelque chose en nous qui naît. Il y a un cœur qui se met à battre et qui est dû à l'action de Dieu en nous. Quand on devient chrétien, il y a notre part, le fait de faire un choix, de croire en Jésus-Christ, d'accepter le sacrifice à la croix. Mais il y a aussi cette part de Dieu qui s'appelle la nouvelle naissance, qui simplement fait naître en nous un fils et une fille. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Parce que, en fait, on rencontre le seul qui nous aime parfaitement. Le seul qui nous aime inconditionnellement. Qui nous aime indépendamment de ce que je peux faire, de ce que j'ai fait, de ce que je ne fais pas, de toutes mes erreurs, de tous mes manquements dont je suis parfois cruellement conscient. Et lui, il dit, je t'aime et je suis ton père. Et ça, c'est bouleversant. Ça provoque un réel changement dans nos vies. Et puis encore plus fort, en fait, nous recevons une nouvelle identité. Enfant, fils et fille de Dieu. Alors tout ça, ça se passe pas juste parce qu'on lit la Bible et puis on le croit, on nous le dit, mais il y a une aide immense qui vient carrément en nous, c'est l'Esprit Saint. Il est appelé un esprit d'adoption. Il est encore appelé l'Esprit du Fils qui vient habiter en moi et qui vient mettre en moi un Fils. Et ce Saint-Esprit, on l'a chanté aussi, nous fait crier « Abba, Père ». Et vous savez, Abba, c'est pas que mon cerveau il sait que je peux crier Abba Père. C'est un cri qui vient du profond de mon être, et c'est seulement un fils qui peut dire Abba Père. Il y a quelque chose dans les entrailles qui naît et qui crie Abba Père. Alors, et c'est là mon propos ce matin, d'un côté, il y a une certitude, une base fondamentale pour notre vie, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Je suis un fils ou une fille de Dieu. Ça, c'est une certitude dite dans la parole de Dieu et confirmée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais de l'autre, il y a cette réalité que j'ai encore besoin de changer. Parce que dans mes pensées, dans ma mentalité, dans mes attitudes, et même jusque dans mes paroles et mes actes, je ne manifeste pas toujours que je suis un enfant de Dieu. Et parfois même ce que je montre, manifeste le contraire. Et on sait tous que ce changement qui s'opère en nous, il est progressif et il est aussi très profond. La Bible dit que l'enfant, au début, se nourrit de lait, le lait de la parole, et puis après, il prend de la nourriture plus solide. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, presque il s'agace en disant, mais vous en êtes encore là alors que vous devriez être des maîtres. Et j'ai envie de vous donner la nourriture plus solide dans la parole de Dieu et vous ne pouvez pas la prendre. Et il s'agace un petit peu. Nous avons besoin, nous sommes fils et filles, mais nous avons besoin de le devenir. Et donc c'est pile ce que je veux dire ce matin. Alors il y a un verset qui est étonnant, qui est en Jean 1. Et c'est cette grande ouverture dans Jean 1 qui s'appelle le prologue, qui parle de Jésus comme la lumière, comme la parole de Dieu. Et elle dit, cette parole, cette lumière, tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en réfléchissant là-dessus, je trouve que c'est une formulation étrange. Devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est étrange parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors pourquoi devenir enfant de Dieu? Et ce qui est intéressant, c'est que ici le mot pouvoir, c'est le mot autorité. Exousia en grec. C'est le mot autorité. Et cela signifie que il y a un nourrisson qui est né en moi, l'enfant de Dieu, mais que ce nourrisson, il doit se développer, il doit grandir, il doit s'épanouir, il doit remplir tout mon être. Et il y a une bataille en nous. Cette bataille qu'on ressent dans les moments, par exemple, où on est tenté, où on a envie de faire des choses que Dieu, nous le savons intimement, ne veut pas que nous fassions. On est tenté de dire des choses, de s'énerver, de dire des paroles, parfois des gestes, et on le sait, l'enfant de Dieu en nous sait que ce n'est pas bon. Et donc, il y a toute une bataille qui s'engage et que nous vivons. Et la différence, c'est qu'avant, quand on ressentait cette bataille, on était forcément perdant et on allait vers les choses qui nous tentaient. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, il y a un pouvoir en nous, il y a une force en nous qui est capable de dire non. Je ne veux pas suivre ce chemin-là. Et ce pouvoir, cette autorité, c'est ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, on a besoin, nous avons besoin d'apprendre à exercer ce pouvoir, cette autorité pour que l'enfant de Dieu grandisse fermement en nous. Alors, avec ce message, et là je fais une petite parenthèse, il me semble qu'il y a une pensée pour notre Église. Depuis l'année dernière, on parle d'une nouvelle saison. Et c'est vrai qu'on est entré dans une nouvelle saison. Et il y a des choses que Dieu veut à préparer pour que nous puissions les vivre. Et des belles choses, des grandes choses. Et pour pouvoir vivre pleinement cela, pour pouvoir saisir ces choses, je crois qu'une clé que Dieu nous donne ce matin, c'est celle de devenir davantage des fils et des filles. D'être des enfants de Dieu plus conscients d'eux-mêmes, plus forts, plus grands en eux-mêmes, plus proches du Père. Et ce que je voudrais démontrer ce matin avec la parole, c'est que seuls les fils peuvent vraiment progresser dans l'œuvre de Dieu. Tant que nous restons avec une mentalité d'esclave, de serviteur, ou une mentalité qui n'est pas celle de l'enfant de Dieu, alors il y a des choses qui nous restent inaccessibles. Et je sais que vous savez ce que je dis ce matin. Je sais qu'on sait tous ici que nous sommes enfants de Dieu, puisque c'est un béaba. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit nous donne une nouvelle profondeur dans notre compréhension de ce qu'est être un enfant de Dieu. Et que ce fils et cette fille en vous soient réveillés ce matin par le Saint-Esprit et par toutes les paroles qui vont être partagées. Je crois qu'il y a un cap à passer tous ensemble, et ce cap ne va pas se faire par l'effort spirituel. Vous savez, des fois, quand on veut progresser avec Dieu, on va dire « Ouais, ben, je vais prier plus, je vais jeûner plus, je vais... » L'effort spirituel, cela est bon, mais c'est un risque si on veut progresser que sur ce chemin-là. Le chemin sécure, je crois, pour le progrès, c'est de désirer être plus ardemment un enfant de Dieu, plus proche du Père. Et tout le reste suit naturellement. Donc je crois qu'il y a une parole pour clé ce matin. Alors, première interrogation, qu'est-ce qui se passe quand le fils en moi, la fille en vous, ne grandit pas, ou ne grandit pas de manière épanouie, pleinement? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a en l'être humain deux tendances, deux écueils, deux choses vers lesquelles nous sommes poussés par notre nature. La première, elle est très visible dans le peuple dans le désert. Alors si je résume vite fait, le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, aimé de Dieu, se retrouve prisonnier en Égypte, esclave, pendant 400 ans. Ils sont sous une tyrannie, ils souffrent, et il crie à Dieu. Dieu entend et Dieu envoie Moïse. Et Moïse fait les miracles, les 10 plaies d'Égypte. Et puis, ce peuple donc sort d'Égypte et passe par le désert pour aller vers sa vocation, sa destinée, son paradis, le Canaan. Et ce qu'on peut lire du peuple d'Israël à ce moment-là, dans cette période du désert, est très instructive. Et Paul dit d'ailleurs, dans ses épîtres, c'est pour nous que cela a été écrit. C'est pas pour le peuple, il savait très bien ce qu'il vivait. C'est pour nous que cela a été écrit. Donc c'est important de regarder attentivement cette histoire. Alors j'ai pris un petit extrait en Exode 14. C'est un moment très révélateur. Et je crois que c'est Jasmine qui dit parfois que dans la pression, quand on est dans un moment de pression, de stress, eh bien, il y a notre cœur qui se révèle. En fait, les choses qu'on contient d'habitude, pour être politiquement correct, sortent. Et là, c'est un moment de pression. Le peuple vient juste de quitter l'Égypte et puis ils sont en route vers leur destinée. Et là, Pharaon, il change d'avis. Il dit, oh, on a été trop bêtes. Nos esclaves sont en train de partir. Poursuivons-les. Il prend toute son armée et boum, il poursuit le peuple. Et le peuple, il se retourne et il voit Pharaon avec tous les chars arriver et il commence sérieusement à s'inquiéter. Et donc, c'est écrit en Exode 14, je lis, « Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à Dieu et ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions ? Laisse-nous servir les Égyptiens !» car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est quand même triste, après tous les miracles qu'ils ont vécus, après toutes les choses merveilleuses, Dieu leur offre leur liberté, et eux sont capables de dire cela. Alors nous, quand on lit ça maintenant, on dit « Oh, ils sont vraiment mauvais, ils sont pas bons, quoi !» Ils n'ont rien compris. Mais en fait, si on réfléchit, je crois que dans nos propres vies, on peut trouver des situations comme ça, où on a des paroles qui sont un peu de ce genre. On n'ose pas trop se l'avouer à soi-même. Mais si on est honnête, je crois qu'il y a toujours un peu de ça dans nos cœurs. Parce que finalement, on est des êtres humains, on est comme les autres. Il n'y a pas de meilleur que d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ce qui se passe, c'est que ces gens étaient toute leur vie en esclavage. Donc ils avaient une mentalité d'esclave. Et c'est exactement le cas pour nous. Avant de devenir chrétien, la Bible dit, vous étiez esclave. Esclave de vous-même, de vos passions, du péché, mais esclave aussi d'un autre qui s'appelle le diable, le prince de ce monde, qui vous dirigeait comme ça, au gré de ses envies. Nous étions esclaves. Et donc il y a une mentalité d'esclave, il y a une pensée, une manière de penser d'esclave, et il y a des paroles et des actes d'esclaves. Et ici, ce qu'on peut voir, ce qui jaillit en fait de cette histoire, c'est que, par exemple, ce peuple, ces personnes, se laissaient dominer par leurs craintes. Ils avaient peur, et cette peur les dominait. Et là, on voit une première différence entre un fils, et on peut très bien voir cela en Josué et Caleb, qui faisaient partie de ce peuple, mais qui avaient une attitude différente. Josué et Caleb certainement avaient peur. Il n'y a pas de problème d'avoir peur. C'est humain, c'est même, je crois, une qualité que nous avons pour notre survie. Mais ils n'étaient pas dominés par leur peur. Ils étaient dominés par la pensée de Dieu, par le cœur de Dieu. Et comme ils savaient que Dieu leur disait « Vas-y, avance, même si tu as peur », ils y allaient. Première chose. Les esclaves, cette mentalité, sont dominés par leurs craintes, leurs peurs, alors que le fils peut dépasser sa peur, parce qu'il a foi en son père. Le deuxième élément, c'est qu'à cause de cette peur, il se replie, il se crispe sur le confort de l'Égypte. Et j'ai mis « confort » entre guillemets. Un peu plus loin, dans l'histoire Exode 16, ils disent « Dans le peuple d'Égypte, nous étions près de la marmite de viande ». Nous mangions du pain à la satiété. Qu'est-ce que tu as fait, Moïse ? Pourquoi tu nous as fait sortir de ce paradis ? Mais ils oublient qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient à la corvée tous les jours. Et les Égyptiens, quand ça leur chantait, tuaient leurs enfants. À cause de la pression, ils déraillent complètement. Ils disent des inepties, des idioties. En fait, l'esclave en nous est toujours attiré vers le confort de notre petite vie. Moi, je suis quelqu'un comme ça. J'aime mon petit monde, petite tranquillité, etc. Et parfois, quand Dieu me demande d'aller, d'avancer, bah, ça me fait sortir de ce confort. Sortir de sa zone de confort, on dit souvent. C'est le Fils qui peut répondre à cet appel. C'est le Fils qui répond à cet appel. L'homme naturel, il n'a pas envie. Il sent que ça va être galère, il sent que ça va être difficile. Mais le Fils en nous, il se lève et il sort de la zone de confort parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. On peut voir aussi dans ce peuple qu'ils ont l'esprit petit. Ils ont une difficulté à voir au-delà de leurs conditions. Ils ont une difficulté à penser comme Dieu, de vouloir ce que Dieu veut. Dieu voulait Canaan pour eux. Dieu voulait un pays ruisselant de lait et de miel pour eux, le meilleur. Mais eux ne le voyaient pas. Ils étaient incapables de rêver avec Dieu. Et là encore, le fils rêve avec son père. Seul le fils peut vraiment rejoindre le père dans son rêve. Mais le serviteur, l'esclave, même un chrétien avec toute sa bonne volonté, sera toujours limité pour rejoindre son père dans le rêve. Le fond du problème, au final, pour cet exemple-là, c'est qu'ils sont rebelles et incrédules. Et pourquoi ils sont rebelles et incrédules? Une des raisons, je pense, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment intéressés de le connaître. Et on peut tout à fait être chrétien et passer une période de vie où on ne cherche plus Dieu pour Dieu. On est dans notre train-train, on peut peut-être toujours aller à l'église, tout ça, mais il y a un élan vers Dieu qui s'est arrêté, qui s'est ralenti. Et quand ça se passe, la foi périclite, descend, diminue, et l'incrédulité vient. Un deuxième exemple de qu'est-ce qui se passe quand l'enfant de Dieu ne grandit pas en nous. Toujours dans la Bible, il y a des personnages dans les évangiles, des fameux personnages. Alors, on aime bien tirer à boulet rouge sur eux. On peut se décharger sur eux. Ce sont les pharisiens, les braves pharisiens. Ils s'en prennent plein la tête à chaque fois parce qu'ils sont vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je dis qu'on est tous un peu pharisiens par moment. Et on est tous tentés par ça. Ce n'est pas une histoire d'époque, hein, pharisien. Pharisien, c'est le problème de la religiosité. Et on est tous guettés par ça. Je peux devenir un super chrétien. Je peux répondre à tous les standards de mon milieu. Je vais à l'église le dimanche, je prie, je lis ma Bible, etc., etc. Tous les standards qu'on a dans nos têtes, qui ne sont pas d'ailleurs mauvais, hein, c'est juste comme ça. Et on peut être ce chrétien-là sans que le fils ou la fille en moi ne grandisse. Je peux connaître et adopter une forme, mais il n'y a rien de vraiment intime de vécu avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça que j'observais chez les ados. Pendant des années avec mon épouse, on s'est occupé des ados à l'église. Et en fait, je crois que pour beaucoup d'ados, dans les églises qui grandissent dans les familles chrétiennes, il y a un moment, alors pas tous bien sûr, mais j'ai vu quand même pour beaucoup, il y a un moment un peu de crise. Parce que c'est plus la foi de leurs parents, ça doit être leur foi. Et en fait, j'en ai vu beaucoup qui vivaient rien avec Dieu. Donc ils avaient compris, au début on est là, on fait plaisir à papa, maman, ça c'est l'enfance. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête, ça passe plus. Parce que l'ado, il veut être authentique, il veut être vrai, et il supporte plus de jouer un rôle comme ça. Et donc c'est là en général où ben il cesse de venir à l'église et il trace sa route. Parce qu'il a besoin de vivre quelque chose d'authentique avec Dieu. vivre quelque chose d'intime avec Dieu. Un exemple, c'est je peux lire ma Bible, je peux lire la parole de Dieu tous les jours, mais ne jamais entendre la voix de Dieu. Je me suis un peu questionné cet été parce qu'il y a des versets qui parlent de la voix et puis d'autres qui parlent de la parole. Je me dis, tiens, mais finalement, c'est intéressant. C'est quoi la différence? Pourquoi il y a cette distinction? Pourquoi il y a deux mots différents dans la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Donc, j'ai réfléchi. Et je me dis que la parole, en fait, c'est quelque chose d'extérieur. Et ça peut être pour moi juste une lettre gravée dans ma pierre, de mon cerveau. Mais quand j'entends la voix, ça suppose une relation, ça suppose quelqu'un qui me parle, ça suppose un moment plus intime. Mais là, c'est différent. Quand j'entends la voix de Dieu, il y a quelque chose en moi qui vit, il y a une relation avec Dieu, il y a une rencontre. Alors que je peux très bien lire la Bible tout seul, mais je ne peux pas entendre la voix tout seul. Si j'entends des voix tout seul, il y a un problème. Ce n'est pas si évident que ça de devenir des fils. Cela ne va pas de soi. Ce n'est pas juste se laisser porter par le courant de l'esprit et puis on devient des fils comme ça et tout est simple. Nos propres cœurs, nos propres expériences le disent. Pourquoi ça peut être parfois pas si facile? Je crois qu'il y a deux obstacles dans notre vie. Le premier, c'est notre chair, ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire notre ancienne nature qui est rebelle à Dieu, qui ne veut pas Dieu. Et cette ancienne nature, nous dit Paul en Galates 2:20, elle est crucifiée à la croix avec Christ. Donc elle est là, elle est crucifiée, elle est en train de mourir. Mais elle n'est pas totalement morte. Donc elle réagit encore. Et nous, c'est là où on exerce notre autorité pour lui dire « Tais-toi, c'est plus toi le maître en moi, c'est le Fils. » Donc je crois qu'il y a déjà notre chair qui est là et qui veut résister, survivre, etc. Et puis, il y a, et là, on n'est pas tous égaux par rapport à cela, c'est le vécu avec notre Père terrestre. Il se peut que nous ayons eu un vécu difficile, où pour nous, Père évoque quelque chose de dur, quelque chose de lointain, peut-être de violent, et il y a quelque chose de fissuré en nous. Donc, je crois que ces obstacles-là, sont des vrais obstacles pour nous empêcher et qu'il nous faut les considérer. Et si peut-être vous sentez que vous n'avez finalement jamais vraiment senti en vous l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu comme l'amour d'un père, je vous invite vraiment à aller voir un frère, une sœur, quelqu'un pour régler ça, pour qu'il vous accompagne, qu'il vous encourage, mais cherchez cela. Parce que Dieu veut vraiment déverser son amour de père en chacun de ses enfants. Et il y a une guérison extraordinaire, il y a une restauration puissante en cela. Ce n'est pas réservé qu'à certains chrétiens, c'est vraiment le lot de tous. Dieu cherche des fils. En fait, Dieu ne cherche pas du tout des serviteurs. Dieu ne cherche pas des serviteurs. Il veut d'abord un fils. Une fille. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le dit, « Je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, je vous appelle frère. Nous sommes des fils et des filles. » Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Jésus commence son ministère, son service, donc quand il commence à être un serviteur, et je situe ce moment au moment de son baptême, où Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et bien là, il y a cette voix qui vient, qui descend du ciel, et qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et pour moi, ça montre clairement que Jésus était avant toute chose et qu'il devait garder précieusement en lui, tout le long de son ministère, cette vérité fondamentale qu'il est un fils bien-aimé. Le fils bien-aimé du Père. Et c'est ça qui lui a permis de tenir jusqu'au bout les choses. Et c'est sur cette base, je dirais, c'est sur cette identité de fils qu'il a pu entrer dans la fonction de serviteur. Et je crois que c'est ça la différence entre, pour nous, serviteurs et enfants. C'est qu'enfant, c'est notre identité. Alors que notre service, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, ce n'est qu'une fonction, mais qui se base sur notre identité. Et on va pouvoir être un merveilleux serviteur de Dieu dans la mesure où notre identité de fils et de fille est fondée, est solide, est forte. Et on peut voir d'ailleurs que tout au long du ministère de Jésus, le fils jaillissait comme ça par moments. Le fils pouvait... Jésus parlait constamment de son père parce que le fils en lui débordait et que finalement son service était un débordement du fils en lui. Dieu cherche des fils, il crée des fils en chacun de nous et ensuite il les façonne. Il prend chacun de nous et il façonne le fils et la fille tous les jours. Et jusqu'à la fin, ce sera comme ça. Alors cet été, j'ai redécouvert l'Épître aux Hébreux. Et il y a un truc qui se passe avec la Bible, ça me fait souvent ça, c'est que j'ai beau avoir lu 10 fois, 15 fois, 20 fois la chose, à un moment, je vais relire, et puis bam, ça va me parler d'une manière nouvelle. Ah, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et donc, alors ça ne me fait pas ça systématiquement, mais bah, c'est une bonne surprise des fois. Et donc, j'ai relu Hébreu et j'ai bloqué carrément sur l'introduction, sur les deux premiers chapitres en fait, où il y a une présentation magistrale du Fils de Dieu avec un grand F. Et j'ai vraiment trouvé ça beau. Le Fils de Dieu. Alors là, quelques extraits dans le chapitre 1. Après avoir parlé par les prophètes à nos pères, Dieu nous parle par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour toi un père et lui, toi, tu seras pour moi un fils. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains, tu les rouleras comme un manteau. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Et j'étais vraiment touché, frappé par la beauté de ces paroles. Les paroles d'un père à son fils, au fils avec un grand F. Et ça m'a vraiment touché parce qu'à un moment dans ma lecture, j'ai réalisé, peut-être avant je le savais, mais je ne m'étais jamais arrêté là-dessus. Et j'ai réalisé que ce que dit le père pour son fils Jésus, en fait, il le dit aussi à moi. En fait, il le dit aussi à nous. Il le dit à son fils parce que c'est le premier-né, mais derrière, il s'adresse aussi aux enfants de Dieu. Il te dit, je veux parler à travers toi. Tu es le rayonnement de ma gloire et l'expression de mon être. Tu es ma fille, tu es mon fils, et c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Etc., etc. Alors c'est un peu étonnant cette affirmation, mais je peux vraiment la démontrer, j'ai pas le temps. Mais il y a un verset étonnant dans Hébreux qui dit « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Et si on réfléchit vraiment à ce que ça veut dire, ce que ça implique, « Je suis comme Jésus, issu du Père. » C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que Jésus ne m'appelle pas simplement mon disciple, il m'appelle mon frère. Mais c'est tellement puissant ça. C'est tellement puissant et ça a tellement d'implications. Parce que ça veut dire que Dieu m'élève avec le Fils aîné. Et ce que Dieu fait vivre au Fils aîné, il veut le faire vivre à ses autres fils et filles. Et c'est comme si finalement, tout ce que le Fils fait, tout ce que le Fils vit, c'est comme un chemin pour les enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à suivre notre grand frère. Et il y a là quelque chose, je trouve, d'énorme. Le Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Ça montre que seul un fils peut vraiment connaître le Père et le montrer aux autres. Un disciple va montrer le Maître. Un fils va montrer le Père. Et les gens, les êtres humains comme nous, comme moi, on a besoin de rencontrer Dieu le Père. On n'a pas besoin, oui, on a toujours besoin, mais c'est limité de rencontrer juste Dieu et l'Église et les chrétiens. Si ça s'arrête là, c'est, excusez-moi, mais c'est triste. Rencontrer Dieu le Père, rencontrer l'amour du Père, connaître ça, c'est ça qui change nos vies, c'est ça qui change la vie des gens autour de nous. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus est venu faire, pas autre chose. Il est venu révéler le Père, Dieu le Père. Jean 1. Et ça, seul le Fils en nous peut révéler, peut connaître le Père. Autre chose extraordinaire dans ces versets, c'est le Fils a le Père en lui. Il a de son Père en lui. Je t'ai engendré. Ça veut dire qu'il y a de l'ADN du Père en moi. Il y a de la semence du Père en moi. Dieu n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Il a planté en moi une part de lui. Mais c'est tellement puissant si on s'arrête là-dessus. Il y a quelque chose de divin en nous. Il y a un appel. Il y a des désirs. Il y a des rêves. Il y a des capacités qu'on appelle dons spirituels. Il y a des œuvres en moi, en vous, qui viennent du ciel, qui viennent de Dieu. Prédicateur que j'aime beaucoup, j'en parle je crois à chaque fois, c'est Spurgeon, pasteur en Angleterre, 19e siècle. Et il disait, je ne viens pas prêcher avec mon intelligence et mes idées, etc. Tout ce qu'on fait, si ça vient de nous-mêmes, c'est que des choses humaines, terrestres, et ça ne change pas le monde. Ce qui change le monde, c'est ce qui vient d'en haut, c'est le ciel. C'est le ciel qui vient nourrir la terre et qui vient changer les choses ici-bas. Et c'est ce ciel-là que Dieu dépose en nous. Je t'ai engendré. Je t'ai engendré. Et je crois que quand nous grandissons, quand nous nous attachons à grandir dans cette identité de fils et de fille, les semences qui sont en nous montent à la surface. Et là, je réalise, je comprends, je découvre ma destinée, mon appel. Et ça peut se réaliser, parce que c'est le Fils qui se met en action en moi. Autre idée forte, le Fils est célébré par le Père. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains et tu les rouleras comme un manteau. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Je trouvais ça tellement beau. En fait, là, le Père, c'est comme s'il prophétisait sur son fils. Il annonce ce qui va se passer dans la vie de son fils. Un père est fier de son fils et de sa fille. Un père est fier de ses enfants. Je suis père, je sais ça. Quoi que presque mes enfants fassent, il y a une fierté en moi profonde. Le Père sonde son fils, il le connaît. Il voit en germe tout ce qui est en lui et il le célèbre. Et je crois de même que Dieu voit ce qu'il y a dans nos vies et que parfois par la bouche des uns et des autres, ce qu'on appelle parole prophétique, mais par les encouragements aussi, les retours, Dieu parle sur nos vies pour nous encourager, pour dire « il y a ça dans ta vie, je le vois et je le célèbre ». Et ça nous porte, ça nous booste. Ça propulse en avant le Fils. Alors, je crois que je suis à deux tiers de ce que j'avais à partager, mais je vais couper court parce que je vois l'heure avance. Et je voudrais juste terminer avec cette idée que je trouve très puissante encore. C'est que le Fils doit grandir en nous parce que le diable craint les fils. Le diable ne craint pas l'Église, l'institution. Le diable ne craint pas le chrétien zélé et obéissant. Parce que pourquoi ? Parce qu'il sait jouer, il sait détourner, il sait mettre la pagaille et il est fort pour faire la guerre. mais contre les fils et les filles de Dieu, le diable craint cela, parce qu'il est perdant. Et ça, c'est annoncé d'entrée dans la Bible, dès les premiers versets de la Bible, Genèse 3:15. On appelle ça le proto-évangile, la première aperçu de l'évangile dans la Bible, où Dieu dit, dès qu'il y a eu la chute, il dit au serpent, qui est le diable ici, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et ça, ça veut dire qu'il y aura la guerre et la postérité de la femme, c'est-à-dire premièrement Jésus-Christ, le Fils, mais derrière cela, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, la postérité, le mot veut dire semence, enfant, eh bien c'est cette postérité-là qui va écraser la tête du diable. Et c'est écrit d'entrée, et le diable le sait. Et ce n'est pas étonnant que quand le diable vient attaquer Jésus au désert, qu'est-ce qu'il attaque ? Son identité de fils. Si tu es fils de Dieu, es-tu vraiment fils de Dieu ? Il attaque ça direct. Parce que le diable craint les fils. Parce qu'un fils, il est capable d'aimer comme son père. Parce qu'un fils, il est capable d'avoir la colère du père, qui fait une œuvre sainte. Jésus, quand il casse tout dans le temple, c'était la colère du père qui l'animait. Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Parce que le fils a l'autorité du père. Parce que le fils a la pensée du père. Et parce que le fils a les droits du père. C'est l'héritier. Et à cause de cela, le diable craint les fils et les filles. Alors pour conclure, il y a un verset qui est magistral, qui est en Romains 8 et qui dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création attend que les enfants de Dieu soient révélés. Et le jour où ils seront pleinement révélés, c'est-à-dire le jour de la résurrection, alors ce sera la fin. Et le diable sait que ce sera la fin aussi pour lui. C'est pour ça qu'il fait tout pour éteindre cette révélation. Et cette révélation, elle commence depuis que Jésus est arrivé. Il révèle les enfants de Dieu. Et cette révélation commence en toi, en moi. Connais-toi toi-même. Comprendre, saisir, vivre. Quel fils, quelle fille je suis ? Quelle capacité Dieu a mise en moi ? Il y a une capacité étonnante. Alors comment faire ? Bon, il y a plusieurs manières, je pense, de progresser en tant que fils. Peut-être la plus simple, ça s'appelle le lieu secret. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là tu trouveras ton père. Dit le texte, Matthieu 6:6. Parce que le Père est dans le lieu secret. Et je crois que c'est dans ce cœur à cœur que le Fils et la fille en nous grandit et devient fort. Père, merci pour ta parole parce qu'elle est vraie, parce qu'elle n'exagère pas, mais elle est même précise. Et tu nous as dit que tu nous donnais ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, Père, nous voulons répondre à ce pouvoir que tu nous donnes et exercer cette autorité et nous attacher à devenir de mieux en mieux des fils et des filles pour toi. Seigneur, merci de nous avoir tant aimés et de nous avoir élevés au rang d'enfants, de nous aimer tous les jours, de nous prendre dans tes bras tous les jours. Merci que nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas que tes disciples, mais tes enfants chéris, bien-aimés, quoi que nous fassions. Alors Père, je te prie ce matin, c'est que ta parole puisse descendre dans nos cœurs et ton esprit en nous puisse expliquer, convaincre et nous amener plus proche de toi. Au nom de Jésus. Amen.